Henri Rouleau, Le Noël de Philorum. Philorum, sans quartier, est un ancien marchand de bois retiré des affaires après fortune faite. Tous les bonheurs lui ont souri. Il a fait 4 banqueroutes lucratives en 12 ans. Il est conseiller municipal, aspirant plein d'espoir à la mairie, et objet de la considération des uns et de la crainte des autres. C'est un personnage considérable. Sur le tard, il a épousé l'opulente veuve d'un marchand de la paroisse, Héloïdine Paquet, née Le Molle, une beauté cramoisie de 35 ans, raisonnablement rentée. Le ménage fut heureux car il n'eut pas d'enfant. En se levant un matin, Philorum fut piqué de la tarentule ambulatoire. Un désir immodéré, irrésistible de voir Montréal, s'est emparé de lui. Il tient à passer une huitaine dans la métropole afin de pouvoir raconter des merveilles à ses voisins durant les longues veillées d'hiver et de les étourdir de sa nouvelle supériorité. Les fêtes de Noël lui fournissent une occasion superbe de réaliser son projet. Madame Sancartier aurait bien désiré accompagner son mari, mais elle n'aime pas les voyages. Le vrai, c'est que ses plantureuses rotondités lui interdisent tout déplacement et que la trépidation des chars a une action fatale sur sa gélatineuse personne. Elle a donc laissé partir Philorum, non sans le saturer de vertueuses recommandations. Arrivé à Montréal le 23 décembre au soir, Philorum Sancartier se rend à l'hôtel Bello où descendent tous les gros bonnets de sa connaissance. Son premier soin est d'inscrire son nom en majuscule flamboyante sur le livre des voyageurs. Une fois installé dans sa chambre, il se livre à d'indispensables ablutions, puis s'informe du restaurant La France que le notaire de Sainte-Poloche, sa paroisse, lui a chaudement recommandé. Le restaurant l'a ébloui par ses lampes électriques, la blancheur de ses nappes, ses miroirs, ses flacons, ses verres multiformes. L'exhibition compliquée des desserts, l'empressement du patron, la grâce de la patronne et la politesse des servantes. Après un repas délicat, rosé d'un bourgogne parfumé et inconnu de ses papilles, qui n'ont encore frémi qu'au passage du vin de rhubarbe, dont Héloïdine née Le Molle le régalait au grand jour, Philorum, sans quartier, changea un billet de $10. Avec plaisir, du reste, car il estime qu'il vaut mieux laisser son argent dans les endroits comme il faut que dans les lieux mal famés. L'air est un peu vif, le froid un peu piquant, mais l'atmosphère est limpide. Les étoiles scintillent, la voie lactée jaspe le ciel pur, dont l'infinie profondeur est appréciable. Les passants ont un air débonnaire tout à fait rassurant. Les femmes emmitouflées, la rouge morsure du froid au visage, ont une grâce qui communique au cœur l'amour du prochain. Philorum jouit de ce spectacle de la rue avec la volupté d'un homme qui vient de faire un bon souper. Le casque enfoncé sur les oreilles, les mains gantées enfoncées au plus profond de son capot de bouton de perse, il marche allègrement en fredonnant une gaudriole villageoise, oubliée depuis longtemps. Il a conscience de sa grandeur et il croit qu'il vient de faire la conquête de Montréal. Ses pas le conduisent devant un grand hôtel où il entre absorber un verre de chartreuse. Il paye avec un billet de $5 dont on lui fait le change en argent dur. De plus en plus satisfait, Philorum s'achemine vers son hôtel, bien déterminé à ne pas abuser le premier soir des jouissances offertes par la grande ville. Avisant un magasin de tabaconiste, il entre, fait un choix judicieux parmi les cigares et offre en paiement $1 d'argent. Le marchand examine la pièce et la repousse en disant simplement « Elle est fausse !» Philorum reçut comme un coup au creux de l'estomac. Il reprit la pièce et balbutia « Mais on vient de me la donner dans un grand hôtel !» « Oh, je ne dis pas que vous l'ayez fabriquée, » répond le marchand. « Je vous dis qu'elle est fausse, voilà tout. » Philorome, attristé, tire silencieusement une autre pièce, paie et sort. Il a envie de retourner à l'hôtel pour échanger sa pièce. Mais le retrouvera-t-il, cet hôtel? Et quelle réception fera-t-on à sa personne et à sa réclamation? Il renonce à son projet et pense qu'il vaudra mieux tenter quelques dépenses dans l'obscurité. Comme il songeait aux moyens pratiques de se débarrasser de sa pièce à cette heure avancée, un charretier, ralentissant l'allure de son cheval, lui fit les offres les plus engageantes. L'honnête Philorome, souriant, s'installe dans la sleigh, se laisse entortiller dans les couvertures et dans les robes en se disant « Mais la voilà l'occasion, la voilà !» Arrivé à son hôtel, il constate avec plaisir que l'obscurité est profonde. Mais en même temps, par un travers bien propre à l'incohérence humaine, il regrette presque de pouvoir accomplir son petit forfait sans risque. Son machiavélisme étant est humilié. Aussi est-ce avec commisération qu'il tend sa pièce au charretier en disant « Tenez, payez-vous, brave homme !» Le charretier, un vieux dur à cuire, qui connaît toutes les ficelles et qui n'a jamais buté deux fois la même pierre, palpe longuement la pièce et s'écrie « Oh, ça, est-ce que vous me prenez pour un habitant, vous ? Là que vous me passez de la fausse argent à cette heure ?»« Comment, comment ?» fait notre héros ahuri. « Est-ce que cette pièce ne vaut rien ?»« Mais quand je vous le dis, » répond le grincheux charretier. « Tenez, passez-moi le pouce là-dessus, on dirait du savon. » Philorome, confus, paie en bonne monnaie et rentre à l'hôtel. Mais la fatigue réduit bientôt sa désolation. Au bout d'un quart d'heure, il ronfle comme une toupie. Sa première pensée, s'éveillant, est pour la pièce fausse. Il combine toutes sortes de plans pour s'en défaire. « Ces canailles de Montréalais, » grogne-t-il en s'ajustant, « me passer une pièce fausse, mais c'est ignoble. Tromper un honnête homme comme moi, mais oh, c'est égal, j'en repasserai un autre. » Avec la lâcheté habituelle à tous ceux qui se trouvent dans son cas, il songe à découvrir un petit marchand, un gagne petit, qui sera enchanté de l'aubaine imprévue d'un client extraordinaire. Dès les premiers pas, il découvre une modeste boutique qui expose à son étalage poussiéreux de la tire, des images décolorées, des bonbons amalgamés, des débris de biscuits, des lacets, des rayons, du papier à lettres et des cadavres de mouches. Philorome entre, choisit les cartes postales illustrées. La marchande, une grande femme maigre et brune, faisant alterner une toux déchirante avec un sourire des plus aimables, paraît ravie. Philorome devient prodigue. Il fait ajouter à son emplette des plumes et de l'encre, ce qui porte sa dépense à 35 cents. Détournant adroitement l'attention de la marchande par une feinte admiration de la ville de Montréal, il lui glisse sa pièce dans la main, en douceur avec la discrétion d'un honnête philanthrope faisant la charité. « Voilà, madame !» La marchande répond par un « Merci, monsieur !» ponctué d'un sourire et d'une quinte. Mais, captivée par la loquacité de son client, au moment de mettre le dollar dans son tiroir, elle le laisse tomber. « Ah, quel drôle de son est là, votre pièce !»« Ce que vous dites, » fit le Rome avec indignation. « Mais je dis que c'est du plomb, » murmure la marchande, après avoir examiné la pièce. « Du plomb, nom d'un bateau !» hurle sans quartier, exaspéré. « Mais c'est dégoûtant, à la fin, votre satané pays !»« Ne vous fâchez pas, » dit la femme effrayée. « Et si vous n'avez pas d'autre argent, vous me paierez plus tard, lorsque vous repasserez. »« Jamais !» braille Philorome en se frappant les pectoraux. « Jamais ! Je vaux 20 000 piastres, entendez-vous, et je ne dois rien à personne !» Il paye avec de l'argent irréprochable et rentre à son hôtel accablé. Pour calmer ses nerfs, il envoie à ses amis une carte postale afin de leur faire voir qu'il est à Montréal. Cette petite manifestation chatouille son orgueil et atténue un peu la mauvaise humeur qui ne l'a guère quitté depuis la veille. Mais il est toujours possédé de l'idée de repasser à un autre la pièce sans valeur. Il se rend dans une pharmacie et achète des pastilles pour le rhume. Il offre sa pièce en paiement. Oh, bonheur, on la lui prend. Un éclair joyeux illumine ses traits. Il se sent soulagé d'un fardeau écrasant et considère la mauvaise action qu'il vient de commettre comme le fait le plus méritoire de son existence. Soudain, le commis lui demande « Auriez-vous un billet de 5 piastres ?»« Oh, mais certainement !» répond Philorome sans réfléchir. « Eh bien, dit le préposé au Castoria, vous seriez bien aimable de me le donner en échange de la monnaie dont je suis encombré. » Philorome accepte. Comment refuser un léger service à celui qu'on vient de si bien rouler? Et le commis lui donne 8 pièces de 50 cents. Et oh, désespoir! L'infâme pièce de plomb à l'obsession de laquelle il croyait avoir enfin échappé. Que dire? Non seulement l'infortuné n'a pas la force de discuter, mais il a pu constater que ce dollar d'argent n'avait pas de camarade dans la caisse du pharmacien. Le refuser 1 minute après l'avoir donné, c'était s'accuser soi-même. En se retirant, Philomène de Saint-Cartier conçoit parfaitement les cas d'hydrophobie spontanée. Bien, le seul moyen d'en finir, se dit-il, est de faire une grosse dépense qui me permettra de filer ma pièce avec d'autres. Allons donc dîner richement. Que diable! Pour la première fois que je viens à Montréal, je puis bien me payer ce luxe qui fera diversion au savant mais monotone pudding de Madame Héloïdine. Allop, en route pour l'hôtel. Smopelité, vive la joie. Huîtres, sauternes, pointes d'asperges, truffes, fruits, café, pousse-café, Havane, tout le tremblement de la gastronomie y passe. Total, 4,80 $. Fameuse opération de donner à un nouveau propriétaire la nouvelle pièce, fameuse pièce. Et pendant que le garçon attend, impassible, Philorome, dans un transport immodéré, jette sur le plateau vivement son maudit dollar qui carambole avec les autres pièces. Le son mat et mélancolique qu'il rend a tout perdu. Le plateau est devenu pierre de touche. Le garçon fixe sans mot dire le pauvre Philorome, qui, troublé par ce regard inquisitorial, murmure d'un air hypocrite en cachant sa fureur. « Oh, diable, je crois qu'elle vaut rien !» Et le cœur ulcéré, il la remplace par 2 pièces de 50 cents, neuves, reluisantes, ironiques, insolentes. « Décidément, voilà un dollar qui me coûte cher !» grinça Philorome en se retirant. « Mais c'est égal, j'aurai le dernier mot !» Et comme il passait devant le grand magasin de Barclay, une idée lui vint. « Tiens, si j'achetais quelque chose pour ma femme, et aussi pour moi. Bon, c'est cela, entrons. » Après un minutieux examen, il est captivé par une robe de chambre grise, à brandebourgs bleus et doublée de rouge, qu'il se destine, et par un jupon de flanelle écarlate avec applique noire néo-grec, qui fera les délices de la volumineuse Héloïdine Paquet et le Molle. Il paye avec hâte en argent et en papier, refuse par prudence l'offre qu'on lui fait d'envoyer son baquet à domicile, et sort avec son butin sous le bras, suant, soufflant mais jubilant. « Enfin, dit-il, ils l'ont prise !» Après cet exploit, il ne trouve rien de plus héroïque que d'aller prendre un coup. Il veut solder son verre avec un dollar qu'il tire de sa poche. 3 fois horreur, c'est sa pièce fausse, sa pièce inéluctable qu'il a dans la main. Il a cru la glisser au comptoir de bracelets, mais dans son trouble, il a payé en monnaie de bon aloi. Il ose tenter un nouvel essai. Il fait grand jour, et un enfant ne se laisserait pas prendre. Farouche, il sort en jurant que coûte, il faut en finir. Ses pas le conduisent près de l'Institut Fraser. Il entre là, du moins, il n'aura rien à payer. Cependant, cette gratuité le chagrine un peu, car elle lui enlève une chance de liquider la situation. Trop indifférent pour se plonger dans la lecture des œuvres spéculatives de Darwin, Philodrome accorde sa préférence aux journaux du jour. Dans le compte-rendu élogieux et impartial du Progrès, il apprend que l'on joue Bonaparte au Théâtre Français. Il se promet de s'y rendre et d'y passer sa rondelle de plomb. Au théâtre, se dit-il judicieusement, l'argent file si vite que l'on n'a pas le temps de l'examiner. La journée a été bien morose. Lorsque Philodrome sort de l'Institut Fraser, le soleil, déclinant derrière le Mont-Royal, ramène en son cœur l'espoir qu'avec la nuit, son exaspérant dollar cessera de le persécuter de sa présence. Il regagne le centre de la ville et se contente pour souper d'une soupe aux huîtres. Puis, indigné mais contenu, il va se verser dans le gosier un brandy généreux, propre à lui communiquer l'audace nécessaire à l'accomplissement de sa difficile mission. Ayant toujours sous le bras son paquet des magasins Bracelet, il passe au guichet du théâtre, pèse son fauteuil et voit avec une inarrable volupté sa pièce s'engloutir dans le tiroir du préposé à la recette. Ivre de joie, il entre dans le bar, dans la salle, mais, trompé par le nom du théâtre et le titre de la pièce, il était loin de se douter que Bonaparte était interprété dans la langue sublime de Chamberlain. Il fit part de sa déception à un placeur, aimable par hasard, qui lui annonça que, vu l'engouement du public, on lui rendrait son argent au guichet, car refusé du monde tous les jours. Il sort, fait sa requête, et sans un mot, on lui rend en effet son argent. Mais, ô désespoir, ô fatalité, ô obstination du sort, ô impitoyable décret infernal, le même argent. Philorome, sans oser protester, bousculé par des gens hâtifs, s'en va épouvanté, consterné, muet, fou. « Oh, cette fois, c'en est trop !» gronde-t-il intérieurement. Et planté sur le seuil du théâtre, il s'abandonne à une pensée fatale et lugubre qui assiège sa cervelle endolorie par tant de secousses successives. Le malheureux. Il délibère sur quel genre de mort il choisira pour échapper à sa désolation. Soudain, une main se pose doucement sur son épaule et une voix sympathique parvient à son oreille. Il s'arrache à la désespérance et se tourne vers celui qui vient de l'aborder. C'est un homme de bonne mine, convenablement vêtu, qui, devinant aisément en Philorome un étranger cossu, lui propose, pour tuer le temps, de l'introduire dans un club d'amis où l'on fait d'intéressantes parties de cartes. Philorome passe dans sa paroisse pour un champion au bluff, au casino, au hockey, même à la bête ombrée. « Pourquoi pas ?» dit-il. Et rasséréné par la perspective de passer enfin la pièce fatale qui empoisonne son existence, il suit avec reconnaissance son nouvel ami, son sauveur. Ils pénètrent tous deux dans une maison borgne de la rue Saint-Grégoire, après que son convoyeur eut donné le mot de passe. Philorome est accueilli comme un frère impatiemment attendu. On l'entoure, on le complimente, et on le traite généreusement au brandy, au gin, au whisky, au scotch. Dans toute autre circonstance, Philorome ne se fût pas laissé si aisément circonvenir. Mais il est venu là uniquement pour écouler sa pièce, et il l'écoulera, quand même le diable ne le voudrait pas. Il s'abandonne donc aux effusions de ses nouveaux amis, fraternise avec tous les assistants, fait comme un officier russe en face de l'ennemi, et s'endort enfin sur un sofa défoncé. Au milieu de la nuit, il est réveillé par les cris « Voilà la police !» En effet, des coups résonnent, redoublés à la porte. « Sauf qui peut !» crie une voix. « Mais par où aller ?» gémit Phleurome au comble de l'affolement. La peur lui donne du courage. Il ouvre une fenêtre, décoche le double châssis et saute lourdement sur la neige où il imprime une transe en forme de cuvette. Avisant une porte de derrière, il l'ouvre, passe vite, la referme doucement et échappe ainsi aux vigilants policiers, aussi jaloux de la régularité des mœurs privées que de la sécurité publique. Une minute après, Phleurome entendait une horloge lointaine sonner douloureusement 3 heures. Autour de lui, la solitude. Au-dedans, la rage et le remords. Songeant à des voleurs possibles, il tremble. À des assassins embusqués, il claque des dents. Tous les périls de la nuit semblent le menacer. Un hoquet d'ivrogne, suivi d'un accident habituel et bruyant, lui fait croire que les maisons vont s'écrouler sur sa tête. Et il fuit effaré, navré, bleu de peur, perdu dans la grande ville endormie. Avec l'aube, il rentre à l'hôtel, se glisse dans sa chambre, s'écroule sur le bord de son lit et appelle les larmes au secours de sa désolation. Elles viennent enfin. Il veut tirer son mouchoir afin d'épargner son devant de chemise. Plus rien. Sa poche est veuve de son porte-monnaie. Pendant son sommeil, il a été dévalisé. Quant au faux dollar qu'il avait malignement mis de côté dans un gousset mystérieux pour ne pas le confondre avec d'autres, comme chez Bursley, il est là, seul, exaspérant accusateur, cruellement railleur. Phleurome bondit. Oh, ce n'est plus un homme, c'est un fauve. Il veut déchaîner la police, cerner la maison, reprendre son bien et faire pendre tous ceux qui ont participé à son dépouillement. Oui, mais comment Eloïdine appréciera-t-elle cette escapade de son mari? Cette pensée accable l'époux coupable. Anéanti, Phleurome s'avoue vaincu. Il a tout perdu, tout, tout, jusqu'au jupon écarlate et à la robe de chambre. Il est dépouillé, dévalisé, saccagé. Il ne lui reste que son dollar de plomb. Une rage folle s'empare du malheureux. Il serre dans sa main crispée la pièce infâme, cause de tous ses malheurs. L'apostrophe, l'insulte, la maudit. Et se précipitant tête baissée vers un cabinet mystérieux, il jette furieusement sa pièce dans l'abîme, tire sur la chaîne, et penché sur le trou béant, le visage contracté, attend que le bruit torrentiel de l'eau se soit éteint, il lui annonce enfin que la pièce fantastique est à jamais anéantie. Alors Phleurome, calmé mais sombre, s'éloigne et va s'épancher dans le cœur du maître d'hôtel, qui le console, et envoie un télégramme à Madame Eloïdine Sancartier, née le molle, qui expédie sans retard la somme nécessaire au rapatriement de son mari. Quelques heures plus tard, Phleurome prenait le train pour ce petit village de Sainte-Poloche, où il est probable qu'un accueil terrible l'attendait.